Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, c'est Emeline Barré-Minos qui est avec moi. Emeline, on s'est rencontrés il y a un moment sur un test de Panc sur les compagnons et on s'est revus au congrès d'hypnose moderne et on a vachement accroché, vous le verrez, de toute façon vous l'entendrez. Et on s'est dit, bah pourquoi pas se faire un petit podcast sur sa pratique. À la base, on était parti sur comment elle mêlait l'action, le mouvement à la séance d'accompagnement qu'elle fait. Et puis, on est clairement parti dans absolument tous les sens. Si vous kiffez le podcast, n'oubliez pas de nous mettre les étoiles, les 5 étoiles, et puis de faire tourner l'épisode, ça nous aide pas mal. Et puis, encore merci à tous ceux qui nous font des retours sympas et qui nous disent qu'ils apprécient les épisodes, ça nous aide à continuer. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute.
Eh ben bonjour Emeline.
Bonjour Anna.
On disait ce truc de bonjour là, où on se dit tous bonjour, bonjour, alors qu'on s'est vu pendant 5 minutes avant.
C'est ça, mais c'est pour penser à nos petits téléspectateurs.
Téléspectateurs, auditeurs, c'est un
Pardon
podcast.
Ah c'est vrai, attends, mais c'est en ligne aussi.
Oui, pour une fois, les gens verront ton visage.
Exactement. À partir de là, je peux dire auditeur et téléspectateur.
C'est vrai. Alors, bienvenue. Et bah écoute, c'est quoi ? Vas-y, présente-toi et bonne chance.
Ouais, c'est ça. Merci, déjà merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Emeline Barré-Minos. J'ai bientôt 43 ans. Je suis donc praticienne en hypnose et tout ce qui va être discipline complémentaire, avec des petits éléments, des petites formations en plus sur tout ce qui va être un peu... PNL, analyse transactionnelle que j'aime beaucoup, Ennéagramme aussi qui est un outil que j'utilise pas mal en session. Donc voilà, j'ai commencé l'hypnose il y a, c'était 2011, on est en 2024, donc voilà, ça commence à faire un petit chemin. Au démarrage, c'était pas du tout dans une démarche pour venir en aide aux gens, c'était vraiment purement égocentré. Je voulais bosser sur moi et j'avais vu une conf... hypnose et sommeil, j'avais une tendance insomniaque, je me suis dit vas-y, je vais voir. J'ai trouvé ça intéressant, ils proposaient une semaine d'auto-hypnose en formation. Je m'étais dit soit je pars en vacances au ski ou un truc comme ça, et bien plutôt j'ai mis les sous dans cette formation, ce qui était un peu plus intelligent. Et cette semaine d'auto-hypnose, j'ai trouvé ça assez bluffant. J'ai trouvé ça intéressant dans les éléments que ça pouvait m'apporter. Et du coup, bah, j'ai continué à décider de... On reviendra, il y a toute une petite anecdote là-dessus, tu me diras si t'es intéressée, mais voilà, j'ai décidé de continuer en fait à me former, et puis bah, j'ai ouvert mon cabinet en 2013, puisque après je suis partie un peu voyager, Australie, etc. Et quand je suis rentrée, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai commencé à donner un coup de main, à assister à les formations de Panc de HNO pour ceux qui connaissent. Et puis bah de là voilà mon petit bout de chemin sur l'hypnose s'est continué jusqu'à encore aujourd'hui et pour les années à venir. Voilà.
Très large. Et en plus j'ai envie de te poser des milliers de questions, donc il va falloir qu'on arrive à rester focus sur le thème. On n'y arrivera pas parce que déjà j'ai 3 questions sur l'apport de l'énéagramme, de la T et comment tu t'es fait connaître et comment t'as rempli ton cabinet. Donc calmons-nous. Comment tu définirais ta pratique, toi, actuellement ?
Alors, je suis vraiment sur une hypnose moderne qui va être directe, voire à certains moments directive. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion qui est très proactive. La personne, il n'y a pas de moment où elle est en mode relax dans mon cabinet. Bien sûr, on va aller sur une transe qui va permettre d'être plus connecté à soi, mais connecté, ça ne veut pas dire être forcément relâché. Et donc, du coup, comme on bosse sur des problématiques... Alors, moi, je suis très solutionniste, hein. L'idée, c'est que la personne vient avec une problématique, on va aller trouver une solution. Par contre, cette solution, elle peut passer par de la régression à la cause, elle peut passer par aller bosser sur des éléments qui sont un peu de fond dans les patterns, donc les schémas que les gens ont mis en place, etc. Donc, ça va pas forcément être que sur le comportement, mais par contre, ça va être vraiment en mode, on veut trouver une solution par rapport à ce qui s'est mis en place, mais pourquoi ça s'est mis en place, il y a des moments où c'est utile. Donc voilà, donc du coup, la personne parle tout du long de la session, il va y avoir beaucoup d'actions, et on reviendra sur ce sujet-là, puisque je trouve que ce qui est intéressant au fur et à mesure des années, c'est vraiment de mettre du mouvement dans les sessions, parce qu'on a beau dire aux gens, l'hypnose, vous dormez pas, vous êtes pas en sommeil, vous allez être conscient, vous gardez votre côté logique, analytique, rationnel, on a toujours cette même notion où ils ont l'impression qu'ils vont rien branler. Donc plus on les fait agir physiquement et plus, et ben ça les met un peu au centre de leur thérapie et ça les autonomise. Donc voilà comment je définirais dans les grandes lignes en tout cas ma pratique. Est-ce que ça répond à ta question?
C'est super. Bon, pour ceux qui ne voient pas, Emeline rigole parce que j'ai commencé à rigoler sur le vocable et j'ai aimé ce vocable un peu direct. Tu vois.
Oui,
Ok.
désolée. Alors oui, je prends pas de pincettes,
Non,
j'ai
mais
pas une
faut.
voix de
Nature,
d'Ericksonienne,
peinture.
c'est vraiment.
Donc,
Parce que c'est
résumé.
vrai, on le sait nous-mêmes quand on vient en session enfin, receveur,
Non.
entre guillemets, on a tendance à pas. Enfin, c'est difficile le changement, c'est difficile de faire bouger des choses, ça demande de l'effort, de l'énergie. On le sait, et donc à partir de là, bah, si on veut faire bouger les gens, faut vraiment qu'on les mette au centre de leur thérapie, quoi. Sinon, ils viennent en hypnose parce qu'ils veulent être accompagnés, mais dans le sens, ils veulent un maman ou une papa qui fasse les choses pour eux avec cette baguette magique de ouh, en 3 sessions, on va changer ta vie et tout sera merveilleux. Eh bien non, on ne vous renverra pas du rêve dans ce podcast. On ne change pas votre vie en 3 sessions. En tout cas, moi, non. Par contre, vous voyez des mouvements à chaque session au fur et à mesure. Sinon, ça ne sert à rien de revenir.
Ok, donc, putain, faut que je reprenne tout, j'ai trop de questions. Alors, donc, orienter solution, ok, ce qui t'empêche pas d'aller dans le passé, t'es pas en mode coaching présent-futur, tu peux passer un peu partout sur la ligne du temps, va-t-on
C'est
dire?
ça. Tout ce qui va être utile en fait
Ok.
pour aider la personne à améliorer ou à neutraliser une problématique.
Ok. L'idée de, donc, toi, ton nombre de sessions, t'as pas un nombre minimum ou maximum?
Non, effectivement. Après, si c'est pour venir sur une session, en général, je leur dis ça n'a pas grand intérêt sur le travail que je propose. Et
Okay.
vous allez... Mais ils s'en rendent compte eux-mêmes, hein. Donc j'ai de la chance, j'ai quand même des partenaire de travail que j'ai depuis pour certains 2 ans, souvent sur ces timings-là en tout cas, qui viennent après de façon très ponctuelle. Ça va être certains au début qui vont venir une fois par semaine, parce que quand on veut que ça bouge vite et bien, c'est pas mal. Donc sur des trucs comme l'arrêt de tabac, je le conseille de faire au moins 3 sessions rapprochées toutes les semaines. Mais après, j'en ai qui viennent tous les mois, après j'en ai un qui revient tous les 3 mois, 6 mois, et puis qui reprennent rendez-vous après, etc. En fonction de ce qui a bougé dans leur vie, et c'est ce que je trouve intéressant. Quand je peux, à un moment donné, être un élément qui va leur permettre d'y voir plus clair, de trouver d'autres options, de pouvoir commencer à faire bouger des choses, bah, ils se disent, tiens, là, j'ai besoin d'un coup de main, je sais que ça bouge quand je viens sur ces sessions-là, donc j'y vais, et après, je fais mon cheminement tout seul par moi-même, et c'est plutôt intéressant.
Ok. Est-ce que tu bosses sur du symptomatique ou tu disais des fois tu allais plus sur de la profondeur, de la régression à la cause ou des choses comme ça, ou est-ce que ça t'arrive aussi de bosser bah, par exemple sur un arrêt tabac, sur bah, la fumée, le geste ou
Ouais, bien sûr, le symptôme pour moi il fait partie des éléments à travailler. C'est juste que je reste pas que là-dessus. Mais le typique coupure de lien pour la cigarette, enfin en fait le travail de fond il va être de finir le lien qu'a la personne avec la cigarette par exemple. Récemment j'ai une personne qui vient pour ça. Bah, on se rend compte qu'elle a l'impression que ça fait partie de son bras, que c'est un élément d'elle, etc. Donc il va falloir tout redéfinir par rapport à ça. Et puis on vient sur des éléments qui nous semblent logique en tant que praticien, parce qu'on les entend tellement souvent en mode bah, ça me protège, ça m'évite de parler, c'est un écran de fumée, etc. Mais quand eux, ils l'ont jamais verbalisé ou qu'ils n'ont jamais vu ce lien-là, waouh, tout d'un coup, ça fait un ah ouais, je comprends pourquoi je l'ai mis en place, pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps, donc il y a moins de culpabilité aussi. Donc il va y avoir tous ces éléments-là. Et après, évidemment, il y a tout le travail bah, parce qu'il y a des résistances sur la gestuelle typique. Donc ça va être, bah, on va bosser aussi sur cette gestuelle, quoi, quitte à aller vers du dégoût parce qu'on se rend compte que c'est parasite ou des choses comme ça, quoi.
D'où
Donc ouais,
l'intérêt
les
pour le coup
symptômes.
de
Ouais, dis-moi, pardon.
pardon, d'où l'intérêt de faire verbaliser. C'est aussi pour
Ouais,
que la personne
exactement.
puisse faire les liens en face, parce que ça arrive assez souvent que t'as des clients, en tout cas, il y a des clients qui veulent pas parler, surtout il y a beaucoup de praticiens qui ne font pas parler, notamment
Ouais.
pendant la séance de transe. Et on perd, je trouve, du contenu qui peut être hyper intéressant pour que la personne comprenne. Voir des fois, quand c'est des problématiques, peut-être de trauma ou des choses comme ça, où on essaye de mettre de côté, de faire du déni, etc., de pouvoir le
Ouais.
verbaliser à quelqu'un et que la personne reste là, toujours stable et que la sécurité reste là, c'est important pour le test.
Ouais, et puis comment tu veux les accompagner? En fait, on lit pas dans les pensées, on n'est pas des magiciens, j'adorerais, hein. Mais en fait, c'est pas le cas. Et donc, à partir de là, si on veut les accompagner correctement, moi, aujourd'hui, le langage non spécifique généraliste qui est proposé, il me convient pas. Je dis pas que ça marche pas, hein. Il y a des très, très bons résultats, mais il me convient pas dans ce que j'ai envie de proposer aux gens. Parce que c'est intéressant, c'est de les accompagner eux avec leur histoire, avec ce qui remonte à ce moment-là. Si on les fait pas parler, qu'on a juste du signaling, qu'on voit une larme qui roule, mais qu'on sait pas ce que ça veut dire, ben, en fait, pour moi, on passe à côté de la session, quoi. En
Ouais,
tout
c'est
cas, dans
hyper
le cadre
intéressant.
que je propose, hein, mais
Ouais.
ouais.
Ouais. C'est vrai
Donc,
que
ouais,
souvent, il y avait.
les faire parler pour savoir où les emmener et comment les aider à avancer dans ce truc-là. Et pour, comme tu disais, hein, la verbalisation, elle est essentielle, parce qu'en fait, la plupart du temps, il y en a plein qui disent, ouais, je sais pourquoi je suis venue, je sais déjà, j'ai réfléchi au sujet. Sauf qu'en fait, ils l'ont jamais verbalisé de façon vraiment posée dans ce cadre du cabinet. Où ils s'entendent le dire, où ils prennent le temps de le ressentir aussi, de le vivre au travers des émotions, des sensations qui vont émerger, etc. Que ce soit pas juste du mental, mais vraiment imprégné dans ce qu'on va appeler, alors, une conscientisation, pas toujours systématiquement, mais en tout cas un peu plus global, on va dire.
De mettre le corps à l'œuvre aussi dedans, quoi.
Ouais,
Soit par le
exactement.
ressenti ou, comme tu disais, par l'action. Ou...
C'est ça, tout à fait.
Écoute, je te rejoins un moult. Moi, j'ai jamais compris qu'on puisse faire des séances de transe sans parler. Alors, je me disais que c'était ma curiosité naturelle de fouine, tu vois, qui avait besoin. Mais peut-être. Mais un deuxième truc, c'était que moi, je pars très, très vite dans la lecture de pensée. Et donc, j'ai tendance, quoi qu'il arrive, à même si je sais que je ne vais pas le faire, à interpréter ce qui est en train de se passer. Ça m'est arrivé sur un truc où la personne me parlait de façon très générale, globale, une métaphore. Et moi, j'ai fini la session en me disant, cette personne va mourir et il veut se suicider. C'était pas du tout ça le truc. C'était qu'il allait peut-être rompre avec sa femme.
Oh la vache.
T'imagines la lecture de pensée de mal. Et je peux pas m'en empêcher. Enfin, je peux pas empêcher mon cerveau d'essayer de mettre du sens, en fait, sur ce
Mais
qui
ce
se
qui est
passe.
logique, ça va aussi avec ton type de personnalité. On sait, la projection, et de toute façon, même sans avoir un type de personnalité en 6, on fait tous de la projection de pensée. Et c'est pour ça que dans ça, je fais hyper gaffe, puisque dans le cadre bah, de la thérapie, c'est de se dire, ou du coaching, peu importe, mais c'est de se dire, bah, en fait, il faut que je lui pose des questions et pas que je me fasse tous mes délires moi-même, quoi.
C'est
Donc,
ça.
même moi, quand je reprends des fois leur pattern et ce que j'en ai compris, etc., je suis là, attends, c'est bien, ça t'appartient, je suis pas en train d'utiliser un mot qui te conviendrait pas, parce que je vais en utiliser qui ne sont pas que de la reformulation, parce qu'à un moment, c'est à nous d'apporter aussi quelque chose, de mettre, pour aller dans un vocable sympa, de mettre un peu nos coucougnettes sur la table et de proposer des choses. Ça va être censuré de
Robert,
partout, cette...
Robert. Non, ça va pas être censuré parce que je n'ai pas envie de faire du montage. Voilà, désolé pour tout le monde, c'est comme ça.
Attends, je fais attention, j'utilise des mots, tu vois, je fais avec délicatesse.
C'est bien. Non, mais oui, t'as raison, il faut un moment qu'on mette nos ovaires et coucougnettes sur la table
Ouais.
et qu'on s'implique, nous aussi, en fait, dans la séance, finalement. Pas qu'on
C'est
reste en espèce
ça.
de passivité derrière à faire juste, ben moi, je guide
Bah, on n'est pas
tranquillement dans sa
psychanalyste, quoi. On n'est
transe.
pas à faire un, et ils sont assis, ils sont allongés sur un canapé, quoi. Donc, chacun son domaine de compétence, c'est pas le nôtre. Donc, bah, c'est à nous de bouger un peu les fesses pour aller poser les bonnes questions et aller effectivement ben, trouver ce qu'ils vont pouvoir nous dire et comment on va pouvoir les aider, quoi.
Ouais, parce qu'en plus, pour le coup, si tu les laisses faire, comme moi d'ailleurs je fais en séance personnellement, je retombe très vite dans mes propres patterns. C'est-à-dire que je vais aller trouver mes propres solutions, mais dans les patterns déjà existants. Donc en fait, des
Ouais.
fois, je trouve des solutions qui empirent mon problème, tranquillement, tu vois.
Voilà.
C'est une
Ah bah
super
c'est clair.
solution. Ah mais non!
C'est
Mais si
clair
la
parce qu'ils
personne.
viendraient,
Oui.
ils viennent pas nous voir s'ils n'ont pas de problème ou s'ils ont réussi à trouver eux-mêmes leur solution. Donc en fait, à partir du moment où ils viennent nous voir, c'est que bien sûr qu'on n'est pas tout puissant, et loin de là. Par contre, on est là pour leur donner des options, pour leur proposer d'autres chemins. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas du tout. Tu passes sur autre chose. Tu vas les questionner et effectivement, ils arrivent à trouver à ce moment-là une perspective qu'ils n'avaient pas envisagée. Mais dans l'ensemble, on fait une partie du taf et ils font la leur.
Donc, tu disais l'action. C'est parce que la base de notre podcast, c'est
Base.
l'action. La base. Recadre-moi de temps en temps.
On se ressent.
On se recentre, on respire. Alors, donc l'action, l'importance de l'action. Alors, quand tu dis action, c'est l'action. Parce que moi, tout de suite, ça me fait penser, tu vois, au protocole PNL debout, par exemple. Ou au truc où on va bouger le corps, où on va bouger dans la séance. Est-ce que tu le vois autrement, toi, l'importance du
Alors,
mouvement
ça en fait
là-dessus?
partie, évidemment. Après, je t'avoue que, par exemple, moi, je fais pas énormément se lever mes partenaires. C'est assez rare que je les fasse bouger debout. Ça arrive sur certains moments, mais c'est pas très fréquent. Par contre, je fais beaucoup d'actions au niveau des mains ou du corps. C'est-à-dire, on va avoir tous les éléments. Bah, déjà, première session, il y aura toujours un travail en pré-test, hein. Ne serait-ce que pour leur faire comprendre ce qu'est la transe. Et après, j'utilise pas mal la pré-test thérapie, donc du coup, qui est ce principe d'utiliser les pré-tests avec ces sensations, ces éléments au niveau des mains, pour pouvoir travailler sur une problématique. Exemple, ben voilà, dans une de tes mains, tu vas mettre cette problématique, elle devient de plus en plus lourde, et après, dans l'autre, ça va être ta motivation, elle est bien, on va voir comment ça se passe. Des fois, ça bouge pas, ok, donc qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, en gros, avec ce qui est donné et les suggestions que nous, on va proposer, on va mettre le corps en action, que ce soit pas juste le mental. Ça permet à la personne, des fois, de se dire, ah, putain, mais en fait, je comprends pas, ça bouge pas, ou c'est hyper lourd, et donc, du coup, ça va leur permettre davantage encore de conscientiser le truc. Et de l'intégrer mieux, en tout cas pour moi, et d'être proactif, quoi. C'est vraiment cette notion de plus il y a du mouvement, et plus ça les oblige à pas aller dans un état un peu végétatif, en mode j'ai pas envie de parler, je parle tout doux. Non, non, vas-y, t'es là, tu fais les choses, tu les mets en place, tu vois que tu peux bouger, que t'es toujours au centre de ton travail, t'es actif. Et pour autant, bah, t'es quand même connecté à tout ta partie subconsciente, donc imagination, mémoire à long terme, émotion, etc., quoi.
Ok. Pour toi, dans les séances qu'on peut voir, alors, je vais dire type ericksonienne, détente, relax, machin, où c'est beaucoup le praticien qui est au centre finalement. Donc, alors, à la base, ça devait être une question. Je te l'ai fait comme une affirmation. Est-ce que pour toi, dans les séances types qu'on peut voir, le praticien, il est plus au centre que le client? Comme tu dis que là, tu veux vraiment faire revenir le client en activité, au centre de la séance.
Je sais pas si je l'exprimerais de la sorte. Je pense que sur une séance ericksonienne, comme ils disent, ils travaillent plus, ils ont leur anamnèse au début. Donc ils ont chopé plein d'infos. Et à partir de cette info, quand ils viennent sur leur transe, ils vont plus être effectivement à ce moment-là, ils se remettent eux en position haute, même s'ils se disent en position basse. Pas tout à fait d'accord avec cette explication-là. Parce qu'à partir du moment où tu donnes de la suggestion au travers des métaphores imbriquées, etc., mais que l'autre en face ne s'exprime pas, ni ne valide, ni n'invalide, pour moi, tu es en position plutôt haute. Donc pour moi, à ce moment-là, effectivement, le partenaire, il est juste en réception, ce qui peut être efficace, hein, parce que ça permet aux suggestions de rentrer, etc. Et le praticien est plutôt en posture haute à donner ce qu'il a vu, enfin les suggestions qui vont être efficaces par rapport à ce qu'il a perçu de la problématique de la personne qui lui a parlé en amont. Effectivement, dans ce cas-là, le partenaire n'a pas la capacité à dire oui ou non, et il va juste prendre les suggestions et les accepter, mais ce qui est le deal de départ, donc c'est clean. Dans les sessions que moi je vais proposer, je suis en position. Mon partenaire va toujours être au centre de la session, mais par contre, je vais toujours rester en position haute. Dans le sens où c'est moi qui connais mon métier. Dans ce qu'il me propose, il aura toujours tendance à avoir ou des évitements ou des éléments, des résistances, etc., qui sont normales. C'est pas évident de faire bouger les choses à l'intérieur de soi. Donc c'est à moi d'être hyper vigilante en attention et en écoute active, et dans les éléments que je propose. C'est pas non mais ça j'ai pas envie. Non non, tu le fais. Si par contre tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a un truc qui dit c'est pas juste, ok, là on bosse dessus et on voit ce qu'il y a. Mais par contre si je te propose un truc, tu le mets en place. C'est pas à toi de me dire oui ou non, ça me plaît pas. En fait c'est vas-y, tu bouges tes fesses, t'es venu ici pour cette dans cet état d'esprit-là. Donc après, si ça fonctionne pas, on voit, mais c'est pas de j'ai pas envie ou j'ai envie, ça va, tu payes 80 balles ta séance, t'es sûr que t'as vraiment envie de faire que dalle? Non. Donc je garde en fait cette position haute à dire, bah là pour le coup, je suis professionnelle dans mon métier, donc ce que je peux proposer, tu le mets en place et après on voit ensemble si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si ça
Là,
fait du bien, si ça fait pas du bien.
tu parles là dans la séance, pas par exemple une action que tu demandes en dehors de la séance, c'est un truc dans la séance, j'en sais rien,
Ouais.
discuter avec
Ben,
la partie qui a envie de fumer, c'est rien, j'invente. Ah non, j'ai
c'est
pas trop
ça.
envie, je l'aime pas. Là, il n'y a
C'est
pas.
ça, ou c'est ça, ou deviens, j'aime beaucoup cette notion de devenir l'émotion ou la problématique, bah tu deviens, j'ai de la colère. Ok, bah maintenant tu deviens cette colère. C'est pas juste tu parles à cette colère en dissociant avec elle est en face de toi, c'est tu deviens et je te fais parler, ok, colère, qu'est-ce qui fait que t'es là? Qu'est-ce que tu branles? À quoi tu sers, etc. Et vont te faire, il y en a beaucoup à certains moments, ah, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais, je m'en fous, que tu sois à l'aise ou pas, en fait, là, c'est le, tu fais comme si. Tu fais comme si t'étais la colère, tu rentres dans ce truc-là, parce que l'idée, c'est vraiment de switcher à ce niveau-là d'état émotionnel et d'aller trouver de l'info, quoi. Parce que sinon, on reste toujours sur une même base, et c'est ce mouvement qu'on va donner autant au travers de la symbolique que tu mets en place. Les mouvements, ils sont dans la gestuelle, comme on disait, mais aussi au niveau de la place qu'on va prendre à certains moments.
Ok. Donc deux questions là-dessus. Question qu'à mon avis les gens vont se poser là, que moi j'ai la réponse, mais enfin j'ai une réponse, mais est-ce que t'as pas peur de perdre le lien quand tu t'es en lead comme ça aussi fort? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'un moment d'éclater le lien?
Alors, qu'est-ce que
Alors, le...
définis-moi le lien,
Alliance
comment toi
thérapeutique,
tu
c'est-à-dire
le.
la confiance que la personne a en toi, la sécurité.
Ah non, parce que ça va toujours être, si je propose un truc, ça va toujours être dans le sens, ce que je propose, c'est pour la personne. Hein.
OK.
Moi, ça va pas m'aider, moi. Donc, c'est vraiment elle, mais c'est de la remettre, en fait, en mode, fuis pas ta problématique, va dans ce que je te propose en même temps. Je suis pas hyper douce, mais je reste quand même un bisounours par rapport à d'autres. Donc, tu vois, je suis pas agressive dans ma façon de dire. Il y a des moments où je peux avoir des petits pics en disant, vas-y, te fous pas de ma gueule. Et je le dis assez souvent. En général, c'est quand ils se la mettent à l'envers eux-mêmes. Et en fait, du coup, quand je leur dis ça, et ils rient, en fait, la plupart du temps, et ils vont se marrer. Ou alors, il y a des moments où quand ils disent, non, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas envie de faire ce truc-là. Je vais le tenter. Je vais booster un peu, si je vois que ça passe pas, ok, on passe à autre chose, je suis pas débile dans le sens où je vais m'adapter, si à un moment je sens qu'il y a un truc qui passe vraiment pas, je me dis bon, pas prêt, pas grave, on va partir sur une autre façon de voir le truc, je suis capable de me réajuster par rapport à, en fonction de ce que je ressens, si je sens que c'est vraiment un blocage en mode juste la personne elle se met pas dedans, elle est pas conciliante et c'est important de l'être, là je vais les booster, si par contre je sens qu'il y a un vrai truc qui bloque, bon, ben on va faire par un autre chemin pour avoir le même type de réponse. Je sais quelle est ma stratégie globale de la séance et à partir de là, je vais m'adapter pour arriver en tout cas sur ce qui va me sembler le plus adéquat pour la session de la personne.
Ok. Est-ce que tu t'adaptes aussi au type de personne? Par exemple, tu as quelqu'un qui fait beaucoup d'enfants soumis. Quand toi, tu passes en normatif, on va dire, ou en lead à fond, et l'autre passe en rebelle ou en soumis, est-ce que tu t'adaptes à ça aussi? Du genre, bah, tu me donnes moins, entre guillemets, alors, très gros guillemets, mais d'ordre, tu leads moins pour laisser l'autre repasser dans un truc adulte, ou est-ce que tu prends en compte ça?
Alors je le notifie en fait en général. Dans ce cas-là, c'est même pas. Alors soit je vais jouer avec, mais c'est plus rare. J'ai plutôt tendance à dire, regarde, là, dans ta gestuelle, dans ton vocabulaire, dans tout, t'es repassé en enfant adapté ou en enfant rebelle. En tout cas, tu t'es remis en posture par exemple d'enfant ou tu t'es remis en telle ou telle posture. Tu es là, pose-toi. On est dans ta session. Reviens en adulte et reprends les éléments par rapport à ton adulte qui vient pour travailler ici, quoi. Donc je vais plutôt le recadrer sous cette forme-là. Après, il y a des moments où je vais me servir effectivement de la posture, parce que j'aime vraiment bien l'analyse transactionnelle là-dessus, comprendre dans quelle posture, notamment état du moi, en tout cas, parents, adultes et enfants, les partenaires sont, comment ils viennent, avec quelle posture, comment ils évoluent en fonction de ce qui est proposé, etc. Et je vais m'adapter. Il y a des moments où je passe en parent bienveillant. La plupart du temps, je vais être sur un rôle de parent bienveillant ou parent normatif. De toute façon, c'est souvent un peu des deux, et la plupart du temps, ils sont quand même en posture d'enfant quand ils viennent en cabinet. Mais il y a des moments où je leur dis, et là, c'est tellement flagrant, non, non, parce qu'ils vont essayer de me faire prendre les décisions à leur place. Ça, c'est très, très fréquent. Genre, bah, je sais pas, et du coup, bon, il y a des moments, si t'es pas bien centré, t'es en mode, ok, bah, vas-y, fais ça, et il faut trouver l'espèce de juste milieu qui est pas évident entre je propose parce que c'est mon rôle. Et à la fois, bah, il faut que tu te sortes les doigts et que tu fasses un peu ton taf, de ton côté, quoi. et donc que tu ailles chercher aussi des réponses à l'intérieur de toi. Mais je suis vraiment, je pense que sur mes sessions, je suis coach, mais coach qui s'intéresse à tous les éléments qui vont émerger de la session.
Ok. Je pense en fait à ma question en même temps. J'en ai trop. Je fais le tri. Pour toi, tu disais quand ils essayent de feinter ou de pas faire quelque chose que tu proposes, tu mets
Ouais.
ça dans la catégorie évitement, résistance?
La plupart du temps, je dirais oui. Ouais, je pense. On fait tellement des évitements. En fait, c'est même pas volontaire, hein. C'est que ils s'endorment eux-mêmes ou alors ils fuient, ils vont vers un autre truc qu'ils te proposent. C'est là où il faut être capable de dire, ok, ça j'entends, mais en fait, là, on voit bien que c'est pas en rapport direct avec le sujet ou que tu m'as sorti une idée à ce moment-là pour échapper à ce que je viens de te dire. Donc, je leur laisse dire ça quelques secondes et puis, ok, ça, je m'en branle, on reprend, ma question, c'est ça. Tu vois, ou même l'autre fois, je l'avais, mais je pense que tu l'as aussi super souvent, le coup de, ils sont dans leur transe, il y a pas mal d'émotions qui remontent, etc. Et c'est, est-ce que je pourrais avoir un mouchoir? Et au fait,
Mais c'est là.
la plupart du temps, je leur dis, bah non, en fait, t'auras l'air d'un panda, tu vas morver de partout, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est normal. Et en fait, on le voit dès que l'autre fois, la personne insistait, je finis par lui filer un mouchoir, elle se mouche, parce qu'elle en avait partout. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, et alors là, ton émotion? Et tu t'es coupé de l'émotion, elle me dit, bah ouais. Je dis, voilà pourquoi je t'avais dit que le mouchoir, c'est un évitement. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça leur permet aussi d'en prendre conscience et de se rendre compte qu'à un moment donné, bah, ils font ces évitements. Et c'est pas grave. C'est juste que bah, après, il faut y retourner par d'autres chemins, etc. Mais que naturellement, bah, c'est pas si évident que ça, en tout cas, d'aller plonger dans les problématiques et ce qu'elles signifient, et pourquoi elles se sont mises en place, et qu'est-ce qui fait qu'on les a gardées maintenant adultes, parce que c'est pas que la faute de papa, maman, one first ou second caretaker, quoi.
Intéressant parce qu'on a tendance à en effet, enfin moi j'en ai pas mal des évitements, des trucs comme ça où il faut pas que je lâche, où tu dois reposer 15 fois la même question parce que quand on est en train de te répondre à côté ou t'amener une nouvelle info pas inintéressante pour le coup, et toi t'as envie de t'en emparer de ce truc parce que mais c'est intéressant, je trouve que tu fais beaucoup de enfin, j'ai l'impression que tu fais pas mal de psychopédagogie, c'est-à-dire que tu leur enseignes pas mal ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans la séance et ce qui est en train de se jouer, et qui permet pas mal de connaissances de soi, du coup, pour le client.
Ouais, c'est vraiment mon cadre de départ que je pose en leur disant, bah voilà, le fameux deal des 50-50 typique d'Hellman, hein. Tu fais 50% du taf, je fais 50% du taf. Tu vas me donner tes émotions, tes sensations, tes pensées, tout ce qui se passe par la tête. Moi, je vais te poser des questions, toi, tu y réponds, etc. Et dans ce deal-là, je leur dis vraiment, moi, il y a plein de moments où je vais dire, tiens, regarde, là, tu t'es refermé, là, et ton corps, il est parti en arrière, là, il y a un truc qui est tendu au niveau de tel endroit. Je dis, moi, je vais juste te le signaler pour que tu captes et que tu en prennes conscience à ce moment-là. Je dis, je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être par rapport à la question que je viens de te poser. Ça peut être un truc qui est remonté par rapport à autre chose. Je dis, je sais pas ce que ça signifie. Par contre, je te le ferai remarquer pour que toi, tu dises, ah oui, effectivement. Et comme ça commence à devenir intéressant parce qu'ils peuvent eux-mêmes commencer, et c'est l'idée dans cette notion d'autonomie, hein, s'auto-analyser, en tout cas, par rapport aux éléments qui arrivent et qui émergent. Donc ouais, la notion psychopédagogique, que ce soit au travers de, tiens, regarde, là, tu te mets en position d'enfant, là, ton corps, il a bougé alors qu'on a dit ça, donc qu'est-ce qui se passe quand je te dis ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ça permet, en fait, de favoriser ce lien aussi, comme tu parlais du lien, mais c'est vraiment cette notion où nous, notre boulot, c'est d'être hyper attentif et hyper en écoute de la personne. Donc cette écoute, elle est au travers de toute la gestuelle aussi et tout ce qu'on perçoit au travers du corps. On n'a pas de réponse sur ce que ça signifie, mais par contre, on a, tiens, il s'est passé quelque chose. Et ça, pour moi, c'est l'un des gros intérêts de notre taf, c'est de le pointer du doigt, en fait, tout simplement.
C'est
Donc,
ce que j'allais rebondir, j'allais dire, ça demande quand même beaucoup d'énergie et d'écoute et d'attention. C'est-à-dire que tu es focus à fond sur l'autre pendant la séance.
ouais.
Y a pas de... Tu lâches pas.
C'est ça.
Il n'y a pas de moment de repos.
Non, t'es focus à fond et à la fois il faut que t'aies quand même ton focus un peu sur toi par rapport à la stratégie de ce que tu notes qu'il te dit, que tu dis tiens ça intéressant mais pas pour cette session-là ou et comment je peux l'utiliser plus tard ou des choses comme ça. Donc ouais, je trouve que C'est un boulot qui, oui, après des sessions, ça demande un peu d'énergie.
Bah, t'en fais pas
Après,
15,
c'est aussi.
hein?
Hein?
T'en fais pas 15 de suite, hein?
T'en fais pas 15 de suite. Non, mais après, moi, je fais pas partie des praticiennes qui prennent 10 personnes dans la journée. C'est juste, pour moi, pas dans. Enfin, en tout cas, de la façon dont je propose les sessions, c'est pas gérable. Enfin, je crois que le maximum que je fais en général, c'est 4. Peut-être qu'en travaillant à l'aveugle ou typique PNL, tu vois, avec juste de la sumo, du machin et tout, sur un truc hyper sympto, t'as pas la même dépense énergétique. Par contre, quand t'es vraiment en mode accompagnement de la personne, que ce soit en coaching ou en thérapie, ouais, ça demande quand même un peu de, ouais, un peu d'énergie quand même.
Tu
Toi,
parlais de maximum.
tu
Moi,
fais beaucoup de sessions par d'affilée?
quatre maximum. Et à la quatrième, je suis déjà pas aussi présente qu'à la première.
Ouais, c'est ça, t'as
Je
pas
crois
la
que
même
j'ai fait
énergie.
5, le max de ma vie. J'ai essayé 5, la cinquième, j'ai fait c'est bon. Ne payez pas, je vous appelle.
On l'a refait la fois d'après, je ne suis
N'étais pas là.
pas, j'en suis
Non, non, ça me fatigue trop en fait. Donc, après, je pense qu'il y a des gens qui ont une gestion d'énergie différente, mais je suis un peu pareil à être très, très à fond sur. Très concentré sur tout ce qui se passe et essayer de prendre toutes les infos, de rebondir, machin, il y a un moment, on ne peut plus en fait. En termes de
C'est ça.
concentration, on ne peut plus. Donc,
C'est ça.
puis ça me
C'est
saoule en plus.
stimulant, c'est stimulant, c'est intéressant, donc
Ah
c'est à la fois nourrissant, hein, c'est sûr. Et c'est aussi bien énergivore,
ah
quoi.
ouais. Mais je préfère comme ça pour le coup, j'avais essayé moi le. Je bossais. En coaching de base, on m'avait appris à bosser comme ça. Donc. J'avais pas de. J'ai été entraînée à bosser comme ça. Mais.
Attends, redéfinis-moi ça en faisant plein de
Ah bah
sessions, tu
ça,
veux dire?
comme non, en plusieurs sessions. Non, en plusieurs
Ouais.
sessions. Mais comme toi, c'est-à-dire très concentrée. Et puis, pas de. Il n'y a pas de transe où j'attends que quelque chose se passe.
Ouais.
J'utilise pas les états de transe profonds, pour le coup. Quand on fait de la transe, il y a du blabla, il y a de la discussion, il y a un truc à faire. Y a, voilà. Donc. Sinon, moi, je m'ennuie très vite. Et si je m'ennuie, je décroche.
OK.
J'avais essayé de travailler comme ça, vraiment type Ericksonien, bah, juste après ma formation à Synapse. Et je m'ennuyais ferme, en fait. Juste attendre des mouvements de doigts.
C'est peut-être cool, hein, mais ça, enfin,
Moi, je me faisais chier, en fait. Et
ouais.
je voyais que je perdais vraiment. Alors, qu'en plus, avec mon problème de projection, tu vois, de mes idées sur l'autre, voilà. Mais en plus, je perdais en info. Donc, pour la session d'après, vu que de toute façon, je ne faisais pas du one shot, pour la session d'après, il me manquait des infos. Donc, il y a plein de trucs qui déconnaient, quoi. Dans le cadre établi, ça n'allait pas.
Ouais.
Mais tester, pas pour moi. Il y a des gens, je pense, qui
Pas
adorent.
validé.
Pas
Ouais.
valider. Pas valider, mais ça dépend le cadre. Vraiment, pour les gens qui font du one shot et qui vont peut-être utiliser, comme Jonathan nous racontait, tu vois, qu'il utilisait pendant un an des transes très profondes. Type Scort et compagnie là et qui pouvait laisser enfin voilà laisser faire ce qui se passait alors pour des trucs très spécifiques qui étaient plus sur de la connaissance de soi estime de soi des choses comme ça et pas sur
Okay.
c'est pas des choses moins symptomatiques pour le coup on n'était pas sur de la
Alors
préparation.
moi, c'est vrai que les ultras qu'on dit profondes, parce que c'est compliqué avec le vocabulaire allemandien, transe profonde, c'est la transe somnambulique. Bref, moi j'ai plutôt tendance à appeler les ultras. Je les bosse régulièrement avec certains de mes partenaires, mais ça va plus être sur des problèmes typiquement physio.
Du
Tu
style.
vois, du style alors des douleurs chroniques, ça va être sur des besoins de guérison et de choses qui guérissent pas bien, etc. Il va y avoir une partie qui est bossée en somnambulique, donc en classique avec échange de données et d'informations. Mais il va y avoir des moments où je trouve intéressant d'aller justement sur les ultras parce qu'elles sont bien pour justement la réparation cellulaire, retrouver effectivement son état un peu source, etc. Et guérison, on est pas mal sur ces notions-là. Moi, j'avais fait des tests même en étant sur moi-même avec des blessures que j'avais eues et où les chirurgiens avaient dit, ah, vous guérissez vraiment vite par rapport à d'habitude, etc. Après, il y a tellement de variables. Est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé les profondes pendant 7 jours d'affilée, ou est-ce que c'est juste que mon corps guérissait bien? On saura jamais si ça a eu une influence ou pas, mais je trouvais intéressant de l'utiliser en tout cas à certains moments. Mais tu vois, j'utiliserai toujours un temps et je le fais pas durer trop longtemps pour que la personne qui revienne, elle puisse faire du feedback sur ce qu'elle a vécu dans son ultra, et on repart sur une notion où on va servir quand même de ce qu'elle amène pour l'engrammer, l'infuser et puis permettre de l'intégrer davantage, quoi.
Ok. Ouais, donc du coup, tu récupères quand même l'info de ce qui s'est passé.
Ouais. Il n'y a
Ok.
pas de moment où je ne sais pas, en fait.
Ok.
Ça, c'est
Après,
vraiment un truc que je refuse.
ouais. C'est que moi, en formation d'hypnose, on m'avait dit surtout, tu fais des amnésies et tu laisses tout dans l'inconscient. Parce que si on fait de l'hypnose, c'est pas pour que ce soit conscient. D'accord.
Ouais, mais c'est
Il
là où
m'a
pour
fallu
définir.
un temps pour démonter ça. Il m'a fallu peut-être 3-4 ans pour
Ouais,
désenfermer.
après, faut pas oublier d'où ça vient, hein. C'était utile à l'époque parce que l'hypnose n'était pas bien vue, quoi. Et qu'on n'était pas censé faire d'hypnose, etc. Donc l'amnésie, elle était due à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi reprendre ces éléments et se dire pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place, à quelle période, et c'est là où le contexte va toujours être important. Si tu recontextualises, tu dis, bah ouais, mais c'était juste parce que l'hypnose, pas bien à l'époque, donc on fait une amnésie, comme ça les gens se rendent même pas compte de ce qui s'est passé, et hop, bonjour monsieur, je m'appelle un tel, alors qu'en fait, t'as fait ta session. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les gens, ils viennent, ils font cette démarche proactive de venir, même si c'est guidé par des gens ou quoi que ce soit, c'est eux qui viennent dans ton cabinet, donc balancer de l'amnésie. Ouais, je sais plus, c'est quoi le deal chez les Ericksoniens, c'est de dire parce que comme ça c'est le subconscient qui gère, il n'y a pas les résistances du conscient, c'est ça?
Ouais, c'est
Un
tout
truc
et n'importe
comme
quoi, de toute façon.
ouais.
Et comme ça, l'autre a oublié que j'ai fait de la merde aussi, ça peut être ça, tu vois. Ou qu'il s'est rien passé, ou ça peut être tellement de choses. Parce qu'on peut se raconter
Ouais.
en début, tu vois, des trucs comme ça, de se dire, bon, bah, de toute façon, je mettrai une amnésie, et comme ça passe, et comme ça va marcher. Puis on te le vend comme ça en école aussi.
Ah, mais c'est là où c'est juste le présupposé de départ, hein. C'est pas le même que sur l'hypnose directe en tout cas, et le manienne où le principe c'est justement un dialogue entre conscient et subconscient. C'est pas le subconscient tout puissant tout court, c'est un dialogue. Donc nous l'idée c'est d'aller choper les infos du subconscient et les ramener au conscient pour que la personne justement elle intègre ce qui se met en place, et c'est tout l'intérêt de notre discipline. Dans ce cadre-là, en tout cas, et dans ce présupposé-là, quoi.
Ok.
C'est là où c'est pourtant assez important de savoir, et on insiste tout le temps sur ce sujet-là, hein, de savoir son cadre, qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place, quelle est notre définition des mots, et à partir de là, tout est possible, c'est juste des tablatures différentes, hein. Mais effectivement, moi, je pars sur celle où, non, notre conscient, il est génial, il nous apporte plein d'infos, et il est capable, c'est notre Google traducteur, hein, c'est notre Translate, hein. On a des images et des trucs du subconscient, on comprend pas toujours exactement la symbolique, ce qu'elle veut dire, et le conscient, il est capable de traduire et nous donner une info un peu intelligible, comme avec le principe des rêves, quoi. Si on n'est pas capable de de les ramener et de mettre des mots dessus, c'est un bric-à-brac de je comprends rien du tout parce qu'il n'y a pas de logique, mais il y a du sens.
Comment tu définis, toi, subconscient dans ton cadre à toi de pratique?
Subconscient, ça va être tout ce qui va être émotion, mémoire à long terme, donc les patterns, les automatismes qu'on a mis en place, et notre côté fainéant. Parce que on a le côté en fait économie d'énergie qui va être au niveau du subconscient, puisque les automatismes on les met, on connaît un chemin, c'est le plus facile, il n'est pas forcément agréable, mais c'est celui qu'on a toujours pris, donc ben notre côté fainéant de pas qu'on veuille pas, mais il y a des moments où on n'est pas apte à bouger, quoi, parce que ça nous demanderait trop d'énergie. Et dès qu'on commence à prendre cette notion-là en considération, ben on comprend au moins pourquoi on met pas les choses en place.
Tu l'utilises ça dans ta séance, tu l'expliques.
Ouais, au tout début, c'est vraiment mon pré-talk. Moi, je prends vraiment un temps assez long, même si j'ai potentiellement envoyé un mail en expliquant tout le principe d'hypnose et mon pré-talk. Je les ai parfois eus au téléphone, mais je reprends quand même en tout début de session ces éléments-là. C'est quoi le conscient? C'est quoi le subconscient? Qu'est-ce qu'on cherche nous aujourd'hui? Qui vont être proactifs? Qui va avoir ce deal de 50-50? Et les petits prétextes qui se rendent compte, bah là, tu vois, tu sens quelque chose de lourd, ta main l'a vraiment baissé, ou les yeux, tu vois qu'il y a une différence entre les deux. Pourtant, tu es en train de me parler. On est d'accord que c'est juste dans ton imagination qu'il n'y a absolument pas de réalité. Il n'y a pas de poids là, il n'y a pas de truc léger ici. Pourtant, il y a un phénomène physiologique qui s'est passé dont tu as eu l'impression. Donc c'est là où on sait que l'imagination, au niveau du cerveau en tout cas, elle fonctionne de la même façon que si c'était une réalité. Donc c'est pour ça qu'on va aller travailler avec toute cette notion d'imagination.
Donc tu cadres
Ouais.
et fort. Et c'est marrant parce que tu enlèves du coup toute notion de magie pour le coup.
Ouais.
C'est directement relié au cerveau, à comment ça se passe, etc. Et ce qui peut être pas mal pour les gens qui ont des attentes de ouf. Tu sais, ça nous est tous arrivé, les personnes qui ressortent de transe et qui disent, bah moi, j'ai pas eu l'impression d'être en transe. C'est vrai que quand tu as expliqué comme ça, direct, au début, ce que c'était, ce que c'était pas, tu peux
Et que
plus
tu l'as fait vivre.
avoir, tu l'as fait vivre, tu peux plus avoir cette, bah non, moi, j'étais pas en
Non.
transe.
Non, parce que t'as beau expliquer la rêverie, toujours les exemples de quand t'as les yeux dans le
Vous savez, c'est que
vague,
vous
quand
êtes
tu
en train...
conduis, hein?
Vous savez, c'est vous êtes en train de lire un livre et que...
Exactement, mais moi je les adore ces exemples, sauf que les gens ils font oui, et puis après ils sortent de leur truc, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une transe, j'avais pas l'impression d'être en transe. Alors que quand tu fais ta petite transe de pré-test, c'est ça l'hypnose, c'est juste ça, ça va pas être plus incroyable que ça, tu vas pas avoir un état différent, etc. Juste ça, sauf qu'on va travailler sur ta problématique. Et bah là, du coup, effectivement, il y a plus questionnement ce truc de c'est pas de l'hypnose. Mais oui, on enlève la magie qui, à certains moments, pourrait, dans certaines conditions, être utile. Hein, en mode, on donne aucune explication, vous inquiétez pas, c'est votre supraconscient et tout va se faire naturellement, etc. Génial. C'est pas mon type de travail, mais j'ai pas de doute que sur certains trucs, ça peut être hyper efficace, parce que ça va jouer avec les croyances des gens. On sait que si on joue avec leurs croyances, ben, du coup, potentiellement, ça va permettre en fait des trucs assez incroyables.
Oui,
Mais
bon,
pas toujours.
faut choisir son praticien, quoi.
Ouais, pas toujours et à quel prix, à quelle compensation, parce que bah, voilà.
C'est ça aussi, c'est que tu rentres dans un truc comme ça veut dire que tu t'es pas autonomisé, qu'il n'y a que l'autre qui peut te faire des suggestions et que tu vas être toujours en recherche de plus de supraconscient ou de plus de connexion, de plus de machin. C'est qu'on
Ouais,
envisage vraiment à long terme ce que ça va créer aussi.
et puis t'enlèves un pattern, qu'est-ce qui va venir le remplacer? Comment tu vas le remplacer? Puisque t'as même pas fait la démarche de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de toi, pourquoi c'était là, etc. Qu'est-ce qui va se passer si, bah, si t'arrêtes de fumer? Peut-être ça va être super cool, très bien, et puis peut-être tu vas prendre 10 kilos parce que tu vas manger à la place, parce que ça venait répondre à un élément, quoi.
Tiens, je barre au fur et à mesure. Tu as parlé tout à l'heure de stratégie plusieurs fois. Alors, ta définition de la stratégie déjà en séance, pour toi, c'est quoi une stratégie? Parce que c'est quelque chose que tu entends rarement.
Ok, une stratégie, c'est-à-dire que à partir de des éléments qui me sont donnés, on va dire en début de séance ou via les séances précédentes, je vais définir en interne ce qui va être vers où je veux aller. C'est-à-dire pas vers où la personne peut aller, mais qu'est-ce qui va être intéressant de travailler et comment ça peut être fait.
Ok, donc c'est
Je
toi
sais
qui
pas si c'est.
définis vers où tu veux aller dans cette séance-là ou dans
Ouais.
l'accompagnement en général.
Alors, il va y avoir une pensée sur l'accompagnement en général. Ça, en général, je me prends des notes en me disant, tiens, cet élément qui est ressorti à ce moment-là, par exemple, il n'a pas lieu d'être traité dans cette séance-là parce que ce n'est pas le travail qui est proposé, etc. et que, mais il est intéressant donc à garder pour plus tard. Ça fait partie des sujets qui peut-être sont récurrents ou reviennent d'une autre façon sur un type de pattern. Donc, où je me dis, tiens, ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Qui est important. Mais la stratégie première, ça va être d'abord sur la session, et après en me disant, il y a quand même plusieurs éléments qui reviennent régulièrement sur le type de personnalité ou cette personne en tout cas, dans ce qu'elle exprime en séance. Et où donc il faut que je garde toujours ça en tête et je le ramène souvent sur des personnes qui vont avoir, je sais pas, une tendance, allez, une tendance masochiste. Il y a plein de moments où ils vont te balancer des trucs, genre en mode, bah, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Alors là, j'en ai marre, j'ai vraiment envie d'être dans une notion où il y a plus de douceur avec moi, où je suis vraiment plus cool et tout. Je dis, ok, mais tu sais bien que c'est du bullshit. En fait, tu fonctionnes que avec des pics de douleur, avec des choses qui vont être violentes, etc. Tu ne sais pas fonctionner autrement. Donc, on peut aller vers plus de douceur, mais ça va pas être doux parce qu'on a déjà vu que, par exemple, la douceur dans ta life, eh ben, t'es super mal à l'aise, ça crée un mal-être, etc., et que t'es pas bien avec ça. Donc c'est juste comment est-ce que tu peux avoir plutôt la stimulation que t'as portée au travers de la souffrance, de la douleur, de machin truc, comment tu peux avoir cette stimulation sans pour autant que ce soit destructeur? Comment tu peux aller la chercher, la construire sans que ce soit destructeur? Et tu vois, c'est dire, bah, il faut que j'ai retenu que sur les séances d'avance, c'est un élément qui est déjà rentré plusieurs fois pour que la personne, elle n'aille pas dans un truc en mode suggestion sociétale de bien-être, merveilleux, estime de soi et tout. Ouais, génial, mais en vrai, mets des vrais mots dessus et vois si c'est compatible avec ton type de fonctionnement, parce que sinon, tu passes à côté de ce qui est réellement possible, quoi. On peut faire un truc, hein, et tu te sens de mieux en mieux à chaque fois que tu feras ça, blablabla. Ouais, génial. Sauf que derrière, tu sais que à 3 semaines après, ils reviennent en disant « Je comprends pas, je me suis blessée » ou « Je comprends pas, il s'est passé ça ». Ouais, mais c'est normal, c'est pas ton fonctionnement. Donc arrête de lutter contre qui tu es vraiment. Va accepter qu'il y a une partie et une tendance de toi à aller vers ça. Et moi, je fais pas de diagnostic, hein, mais il y a des tendances de la personnalité qu'on peut montrer au travers de ce qu'ils ont proposé et qu'ils peuvent eux-mêmes percevoir. Et se dire, bon, donc voilà, comment est-ce que tu peux être plus constructif par rapport à cette tendance que tu as, au lieu d'aller vers un truc qui répondrait à son envie, mais pas à son besoin.
Même pas sûr que ce soit son envie à elle d'ailleurs. Hein. Ça se trouve, c'est l'envie de la société, comme tu disais, ou c'est d'autres pressions extérieures, mais que nous on suit bêtement. Enfin, bêtement.
Ouais, en
On
tout
suit
cas,
moi.
en non-connaissance de soi, quoi. Mais ce qui est normal, hein, c'est... Moi, la première, se connaître, c'est long, c'est difficile, on a beau capter des trucs, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas capté, donc ouais, c'est juste la réponse à ce croit qui serait bien pour nous, sauf que bah on se leurre sur ce qui est réellement possible, ce qui est réaliste, et on va revenir sur cette notion très il faut que ce soit réaliste, factuel, réalisable, et ça, c'est ça vend pas du rêve.
Et donc, du coup, tu crois pas tes clients tout le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver avec moi, je veux ça comme objectif, j'en suis capable, mais qui correspondent pas du tout à leur trait de personnalité ou qui ils sont, etc. Donc, toi, tu prendras pas ça.
Alors c'est pas que je prendrai pas, mais je vais recadrer direct. En fait, je vais juste leur donner en recadrant. Hein, tu leur donnes 3 exemples de ce qui s'est passé dans les sessions d'avant ou des éléments qui t'ont déjà donné comme info. Et là, tu fais. Et donc, tu veux aller vers ça. Et là, ils se décomposent en mode, ah, je sais que je peux pas, mais machin, machin. Et puis, bah après, en fait, tu avances avec cette notion-là. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers ça? D'où elle te vient cette notion alors que tu sais que ça te correspond pas? Ah oui, mais parce que les gens à l'extérieur, le machin, ok, donc le regard d'autrui, enfin tu vois, et après il y a plein d'éléments qui nous permettent de rebondir sur et maintenant redéfinis-moi un objectif qui va être viable et écologique pour toi et réaliste, et on repart sur quelque chose qui soit plus en cohérence avec la personne.
Je
Mais
trouve ça
souvent ça les soulage, hein. Ça les soulage
intéressant.
parce qu'ils sont là, ah ouais, en fait, ça sert à rien que j'atteigne ça, j'ai le droit d'être juste une teigne, ou je sais pas, tu vois, j'ai le droit d'être merdique par rapport à ça, ben ouais, c'est pas grave. Et cette espèce de prise de conscience de je peux arrêter de lutter pour rentrer dans le moule, mais accepter que bah, je fonctionne pas pareil et qu'il y a des trucs qui sont pas cool mais qui font partie de moi, ben il y a un truc où ils se disent ok, là je peux juste être moi, accepter ça, accepter c'est un grand mot, mais au moins commencer à le tolérer et puis à me dire comment est-ce que je peux le gérer pour que ce soit un chouïa moins destructeur en fait, un chouïa plus constructif. Moi, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de se dire par rapport à ce que tu proposes, qu'est-ce qui est possible et petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas.
C'est vraiment, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que c'est un truc avec lequel je bataille des fois avec des stagiaires, mais c'est que on prend pas tout ce que nous donne notre client. Il y a des choses, c'est pas possible en fait. Et même si eux
Oui.
s'imaginent que c'est possible, c'est nous, si on les valide là-dedans, on vient rajouter une couche sur le pattern en fait.
Exactement.
Et ça demande beaucoup de recul, d'esprit critique et de connaissances psycho en fait. Là, j'ai l'impression que tu parles aussi pas mal des ombres, enfin des côtés sombres, de ce qui crée une personnalité, ce qu'on voit rarement finalement en hypnose. Là, on...
Ouais, alors c'est
Non,
peut-être parce que j'ai été
oui.
avec Pang
Oui.
étant mon mentor
Voilà.
originellement et
C'est
toujours
ça. Alors, oui,
d'ailleurs.
les ombres, Jung et compagnie.
Forcément, je crois que les ombres.
Oui,
C'est
ça,
un
tu...
truc
Ouais, mais
que j'ai
dans
pas
les
mal
formations,
tapé.
on va dire classiques, vraiment, on regarde... Bah, en fait, on s'intéresse pas à la psychologie, pour le coup. Large ou philo, parce qu'on
Ouais.
sait toujours des notions de philo, mais on va s'intéresser à comment on change. Et donc, bon, bah quelqu'un arrive avec un problème, bah d'accord, on va changer. Et pas forcément.
Mais moi, je l'adore, cette notion-là. Je
Et
vais
oui,
vers
elle est
comment on change.
super!
Mais pour comment on change? Ben, il faut quand même aller voir qu'il y a des choses qui peuvent pas changer et qu'il y a
Oui.
des choses où il va falloir y aller à pas de fourmis, en fait, c'est tout.
Puis il y a des
Et que
choses qui
ça
sont.
va demander de l'énergie et qu'il faut être prêt à mettre ça en place tous les jours de ta vie et que ce sera peut-être une lutte de tous les jours et tous les instants pour réussir à le faire bouger. Il n'y a peut-être pas de moment où ça va être confortable d'aller dans une direction. Tu peux la choisir, hein, mais que ça ne sera jamais être confortable parce que ce n'est pas toi. Et why not? Mais assez vite, c'est pour ça qu'on retombe dans nos patterns, quoi. Et c'est pour ça que, ouais, effectivement, bah, leur faire prendre conscience que ça, c'est bien ancré, c'est pas très agréable, mais peut-être, parce qu'ils se disent, bah ok, donc fatalisme, je peux rien faire. Bah si, mais ça va te demander du taf. Et il y a des trucs, non, tu peux rien faire. Par contre, tu peux commencer à observer un autre coin, aller dans une autre direction par rapport à ce que tu es au travers de ça.
Ce qui peut confronter à l'impuissance un peu en tant
Oh,
qu'apprentissage.
bah, elle revient assez vite, celle-là, quand même.
Ouais,
Assez souvent. L'impuissance.
ok, on s'est
Ouais,
complètement éloigné du thème de l'action, mais c'était trop bien.
j'avoue.
Tu m'as
J'avoue
pas
qu'on a
recadré.
plutôt déroulé.
Ouais, on a déroulé sur bah, comment tu t'accompagnais les gens en fait. Sur, bah, c'est sur tes croyances, sur l'accompagnement, sur, bah, sur les gens, sur, enfin, sur nous, sur l'humain, etc. Je reviens du coup rapidement à l'action. Tu disais que toi, c'était quelque chose que tu mets en place très très vite, notamment avec
Les pré-tests.
les pré-tests. Il y a
Ouais.
d'autres moments où tu utilises l'action, alors peut-être en séance ou hors séance, est-ce que tu donnes des tâches ou des choses comme ça?
Alors ouais, alors en séance, oui, bah, tout ce qui va être, s'il y a des classiques submodalités, des coupures de lien, des trucs comme ça, je vais les faire agir. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment que tu prennes la tronçonneuse ou t'y ailles, ou que tu fasses un souffle de feu et tu te transformes en dragon, ce que tu veux. Les sumos, tu vas venir bouger le truc, le malaxer, etc., pour qu'il y ait vraiment du mouvement, en fait. Je trouve que dans les séances, c'est plus intéressant. Les gens ont l'impression qu'ils remontent un peu, mais en vrai, ils te feront jamais cette remarque, ou après, ils diront, ah, j'ai l'impression que j'étais un peu moins, et en même temps, bah, en fait, tu vois bien, quoi. Ils font le truc, ils bougent, il y a vraiment des choses qui se passent dans le ressenti. Ils sont capables de percevoir que ça, que c'est pas la même sensation. Donc toi, tu sais qu'ils sont quand même dans une bonne hallucination kinesthésique. Donc, à partir de là, c'est le truc, il est efficace, quoi. Donc ça, je trouve intéressant. Donc, dès que je peux, en fait, je mets ce type de mouvement. En tout cas, ça s'y prête pas toujours, mais même s'il y a rencontre avec quelqu'un, etc., bah, on va créer du geste, du mouvement avec. Et puis en prescription de tâches, ouais, moi j'ai quasiment toujours, je crois que c'est depuis que j'ai vu Nardone à la convention d'Arches quelques années maintenant,
C'était bien.
c'était super,
En 2017, je crois.
ouais, quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça incroyable, et ce qu'on
Incroyable.
disait d'ailleurs avec les gars pendant la convention d'hypnose moderne à Nice, là on disait j'espère que l'Arche, ils vont remettre en place leur convention, parce
Ouais.
que c'est
Elle
vraiment
était
chouette,
trop
quoi,
bien.
excellent. Et depuis Nardone, ça a été pour ça une vraie révélation. Ben, c'est prescription de tâches quasiment systématiquement. Pas toujours, mais même si c'est des trucs tout cool, hein, c'est-à-dire on va avoir fait un petit ancrage pour revenir dans un état de transe, et puis bah, tu travailles sur juste quelques suggestions, tu vois, ne serait-ce que ça par rapport à un élément un peu complexe, ou des états émotionnels à gérer, etc. Ne serait-ce que faire de la respiration, revenir dans ta... dans une zone un peu plus confort, etc. Avec ouais, prescription de tâches quasiment systématiquement. En
Qui
fait, c'est
rentre
une
dans ta
façon de
stratégie.
l'autonomiser, quoi. C'est entre les sessions, en fait, tu taffes, parce qu'une session, que tu l'aies une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, enfin, il y a un moment, c'est ton quotidien qui va changer la donne, hein. C'est pas ma petite session, la petite session qu'on a ensemble, quoi.
Et puis on voit assez rapidement que les gens lâchent entre. Enfin, pour le peu, il y a 3 semaines qui passent entre deux sessions. Tu vois très vite que ils sont plus dedans, quoi. Ils
Même
ont
avec ça, ils disent, ah bah je l'ai fait
Ouais,
pendant
voilà.
3, 5 jours, une semaine, et puis après j'ai arrêté. Ça allait mieux, puis après j'ai arrêté.
Pourquoi? Ah,
C'est ça,
parce que ça allait
pourquoi?
mieux.
Bah oui, mais j'étais repris dans le feu de l'action. Bah oui, mais en fait, si tu veux bouger ça, moi je peux pas le faire à ta place. Donc c'est dingue, hein, parce qu'ils viennent, ils le savent, et pour autant, est-ce que ça. Tranquille, parce que le mouvement, et je trouvais ça génial à la convention de Nice, je crois que c'est Valérie qui nous avait fait l'exercice où tu mets tes pouces comme ça, et genre tu mets dans le sens où t'es le plus à l'aise, et après tu refais le truc et tu mets dans un sens où t'es pas à l'aise, tu vois, dans ton pouce que tu laisses d'un côté ou de l'autre. Et t'as vraiment une sensation, alors, je sais plus,
Pas
c'était
bien.
pas exactement comme ça, mais t'es vraiment pas
Pas bien.
confortable,
Tout
hein.
à fait.
Et tu te dis, putain, juste avec cet exercice-là, on se rend compte à quel point une habitude, elle est difficile à changer. Et après, elle nous l'a fait faire plusieurs fois, tu vois, elle nous dit, ah, vous bougez, puis vous vous remettez dans le sens que vous aimez pas. Et plusieurs fois dans le sens que tu t'aimes pas, et quand tu l'as fait 3, 4 fois, tu te rends compte que, bah, c'est moins inconfortable déjà que la première fois que tu l'as fait. Et j'aime bien ce truc-là et je pense que je vais le réutiliser parce que j'ai trouvé ça génial pour, en début de session, leur faire comprendre à quel point un changement, aussi anodin soit-il qu'un pouce qui est dans un sens ou dans l'autre, il est mine de rien impactant. Et aussi notre capacité à s'adapter si on répète. La répétition va faire qu'on a quand même la capacité à faire bouger un peu les choses, quoi.
Génial ce truc, j'adore.
Ouais,
J'ai
c'est tout
trop
con, hein,
intérêt.
mais j'ai trouvé ça
Ça marche.
super.
Ah
Bien
ouais,
sûr,
c'est
bah,
trop
oui, j'étais fan, mais.
Ah, super. Pour ceux qui sont en audio, ils vont rien comprendre.
C'est
Donc,
pas faux. Eh ben, il faut aller regarder la vidéo.
regardez la vidéo. Sinon, c'était les deux mains croisées, en fait, comme si vous vouliez faire les doigts qui se rapprochent, on va dire. Mais tout croisé, et puis les pouces prennent naturellement où il y a le pouce gauche sur le pouce droit, où il y a le pouce droit sur le pouce gauche. Et ben, en fait, l'inverse du naturel. Et c'est vrai qu'on se sent pas super bien. Et voilà. Ensuite, vous
Exactement.
répétez, vous mettez, vous continuez, vous répétez, et voilà. Et vous allez voir la vidéo.
Je sais pas combien de minutes,
Sais pas, 1 heure, peut-être, 50 minutes Ok, super intéressant ça. Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? On parlait de, oui, de la difficulté du changement.
ouais, et du coup, je vous
Du
disais,
mouvement,
je
voilà,
mettais
du
des
mouvement.
prescriptions de tâches et le mouvement, je trouve ça intéressant, en fait, du coup, en tout cas, de rendre la personne, ben on revient sur cette notion autonome, proactive. Donc plus elle va mettre des choses en place par elle-même, et ben plus elle a de chance, en tout cas, que ce qu'elle a envie de faire bouger, ça bouge.
Dans les prescriptions de tâches, est-ce que tu fais des choses très précises? Parce que moi, j'en ai fait une ce matin là sur quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'il faut faire ça à telle heure, tel jour, parce que la personne était tellement en mode oh, c'est compliqué à trouver, c'est compliqué à trouver. Je me suis dit, bon, on va cadrer, allez, on va y aller, et puis c'est ça tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais à telle heure, enfin, quelque chose de très, moi je suis très comportement, tu vois, très cadre comportement. Est-ce que toi tu étais aussi précise là-dedans ou c'est plus relâche?
Non, rarement. En général, c'est juste en fait, je veux qu'il rebosse des éléments qu'on a taffés pendant la session. Donc, ça va être un élément clé ou un mot en particulier qui a fait écho. Ou j'utilise un peu aussi des fois pour ça la méthode Silva avec le miroir de l'esprit. Donc, potentiellement, se faire une visualisation de soi dans la situation plutôt confortable. Ou les deux dans la situation inconfortable, parce qu'on sait aujourd'hui, enfin en tout cas il y a des éléments qui étaient intéressants, il y a un super neuroscientifique qui s'appelle Huberman, qui a des podcasts assez incroyables sur Internet, et il y en avait un que j'avais trouvé ça passionnant, où il disait que l'évitement de la souffrance pour atteindre un objectif était plus efficace que de la visualisation positive, c'est-à-dire de voir les conséquences que va avoir la situation si tu bouges pas tes fesses ou si tu fais pas changer les choses. Ça crée un tel stress à l'intérieur que ça va être davantage moteur que le fait juste de se percevoir dans un truc positif. Donc il y a des moments, j'utilise vachement ça aussi. En gros, je leur fais petit à petit faire de l'auto-hypnose sur certains appels. Il va y avoir de la prescription de tâches, genre t'es pas à l'aise avec aller parler aux gens ou tu veux rencontrer mes machins, bah tu vas te forcer à avoir deux, je leur donne des applis de rencontre, machin. Tu vas avoir deux personnes d'ici la prochaine session. Tu vas sortir avec machin et tu vas te forcer à parler un petit peu avec un tel, même si c'est des trucs tout simples, tout cool, tu vois. Mais je vais proposer en tout cas des éléments et les mettre comme il veut dans la semaine où c'est bah, tous les jours, par contre, tu prends 5 minutes avant de te coucher ou au lever en fonction de ce qui est le mieux et tu vas faire ce petit exercice-là. Donc ouais, ça va. C'est pas des choses qui sont en soi complexes, mais je veux qu'ils aient une partie où c'est où ils mettent quelque chose en place dans leur quotidien, quoi.
Ok. Et quand il
Mais
le fait.
rarement, ouais, rarement hyper précis, quoi. Je crois que je fais pas des trucs qui est génial à la Nardone en mode tu sors, tu tournes sur
Énervé.
toi-même, tu machines et tout, qui
Je trouve
fait
ça pas.
que.
Voilà. Je pense que c'est complexe à faire. Parce que je l'avais
Ouais.
vu à Paris après, avec l'Arche encore, il était venu intervenir sur un petit congrès, là. Même pas un congrès,
Ouais.
une espèce de masterclass, je sais pas. Et je pense que c'est complexe à faire, que ça demande vraiment une espèce de formation là-dessus, parce que toutes les tâches un peu inversées, là,
Ouais.
fais faire ce que tu veux pas faire. Enfin, il y a des trucs, moi, je l'ai testé un peu, tu vois, en mode Dunning-Kruger. Ah, c'est génial, je vais faire ça tout le temps. Tu peux mettre les gens rapidement dans l'échec, et ça peut être violent pour eux de se rendre compte qu'il y a, ça dépend pas, et pourquoi ils viennent, mais quelqu'un qui a déjà pas confiance en lui, qui ose rien faire, et qui, quand il essaye, il n'y arrive pas. Tu viens juste revalider que t'es qu'une merde, quoi. Donc, ça demande d'aller vraiment, bah, ce que tu dis, en fait, petit, 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 quoi.
Ouais.
Les tâches que je donne maintenant, elles sont minuscules. Ça peut être qu'une fois par semaine, faire un truc, quoi. Et tant pis, enfin, tu vois que la personne cherche à faire tous les jours, pendant 2 heures. Ben non, fais-le des
Non,
fois.
ouais. Après, une fois par semaine, moi j'en attends
Léger,
une.
oui, au
Parce
plus,
que
tu
tous les
vois.
jours, mais 5 minutes, tu vois, mais juste le tous les jours, il est quand même intéressant. Ou tous les 2, 3 jours, mais faut qu'il y ait une espèce de. Je trouve que la régularité, elle est intéressante, quoi. Parce que tu prends le temps de te laver les dents, et ben tu vas prendre 3 minutes pour faire un petit truc pour toi, pour te permettre d'aller mieux, quoi, dans ces journées qui sont, je le sais, pas extensibles, hein. La famille, les enfants, les trucs à gérer, le boulot, les machins, c'est surtout, je le dis haut et clair, pour une femme qui gère davantage quand même le quotidien, aussi bien à la maison qu'avec les enfants, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, quoi.
D'où l'intérêt du peu de temps, quoi. Du 2
Ouais.
minutes, 3 minutes, 5 minutes.
Ouais, c'est ça. Même si c'est peu de temps, mais je prends ce temps-là. Pour moi, c'est aussi une façon de se respecter, j'allais dire, en tout cas, de se faire grandir et de se dire, je m'autorise ce petit temps-là pour pouvoir aller dans ce que j'ai commencé à mettre en place pour me sentir mieux, quoi. Et rien que ça, c'est valorisant pour la personne.
Ok. Comment tu gères quand ils ont rien fait? Parez-vous. Je ne veux plus entendre parler.
Non, parce que sinon, je crois que j'aurais plus personne.
C'est vrai en plus.
Parce que malheureusement, non,
C'est vrai.
j'exagère parce que en général, ils bossent un peu quand même, mais la plupart du temps, ils vont pas jusqu'au bout de ce que j'ai demandé ou des choses comme ça, quoi. Donc non, on prend juste un petit temps à dire, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui fait que t'as stoppé, etc. Parce que je trouve ça intéressant, en fait, de se poser là-dessus. Je veux dire, bah ouais, enfin. Là, t'as des vraies solutions et tu les mets pas en place et tu viens reprendre une session. Mais moi, je peux pas t'apporter, je vais pas faire de la magie. Donc, je reviens juste recadrer sur cet élément-là. Puis après, je leur redonnerai une prescription de tâches qu'ils feront ou qu'ils feront pas. Mais je préfère qu'ils me disent qu'ils l'ont pas fait plutôt qu'ils mitonnent et tu vois, et qu'ils me disent, ah, j'ai tout fait bien.
Trop fort.
Ouais, c'est ça. Non, il va y avoir des moments où ils vont dire, bah, en fait, je l'ai fait, mais. Bah, j'avais beaucoup de remontées émotionnelles, ça a été compliqué, etc. Donc tu dis ok cool, bah ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent et c'est bien de voilà de pas non plus forcer de ouf et puis comme ça on retravaille et on voit comment c'est possible de faire bouger les choses aussi. Alors ça déstabilise, hein, tu le dis au début, de toute façon tu le sais, mais entre le savoir mentalement et puis le vivre, c'est une autre histoire, quoi.
D'autres choses sur l'action? Okay. C'est déjà pas mal. L'importance
C'est ça.
de passer par le corps, par le ressenti, par le mouvement.
Ouais. Ouais, c'est ça, parce que j'ai toujours aimé ce travail avec vraiment cette notion de triforce, hein, mentale, émotion et sensation qui vont être essentielles de toute façon, et qui sont la base de mon questionnement en session. Et derrière, c'est surtout et recréer, ouais, de la gestuelle, en fait, pour les faire agir. Cette notion d'agir, ouais, d'être acteur dans leur session, quoi. Non seulement ils verbalisent, mais ils agissent en faisant les choses, quoi. Et en le ressentant dans leur corps. Et je trouve que c'est important parce qu'en hypnose, on a vraiment cette notion, même si on essaye de se battre contre, ouais, hypnose sommeil, on va être en mode chamallow, etc. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, vous pouvez, à certains moments, mais pas dans l'ensemble des sessions, en tout cas, que moi je propose, quoi. Donc non, ouais, sur l'action, je pense que j'ai pas énormément de choses à dire en plus, mais pour avoir des fois fait 100, c'est-à-dire des séances où il y a du dialogue, hein, toujours, etc., mais sans mouvement du corps, je sais pas, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. rajouter cette dimension-là, elle donne elle est plus constructive en tout cas dans la session.
Okay.
Voilà.
Un petit conseil pour les débutants. Bonne chance.
Bah, non, mais agissez en fait. Faites des tonnes de sessions. Des
Ouais.
tonnes de sessions, pas aucune gratuite. Ça peut être du troc, ça peut être 5 balles si au début on n'est pas à l'aise en tant que débutant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est faut les enchaîner. Vous allez vous planter, vous allez faire de la merde. Et ça, c'est génial, c'est vous n'êtes pas tout puissant. Donc à partir de là, c'est pas une session où tu fais de la merde qui va changer la vie de quelqu'un, parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là, elles entendent des suggestions de merde depuis des années. Il y a des tas de trucs, que ce soit en écho avec la télé, avec des machins et tout, qui vont augmenter leurs problématiques, si tu veux. Et pour autant, voilà, on est assez, mine de rien, on est assez costaud en interne pour être capable de gérer les trucs. Donc c'est pas grave. Mais soyez par contre bien en écoute des personnes avec qui vous travaillez. Vous êtes là pour les accompagner, pour pas être dans votre tête, mais vraiment avec eux ce qu'ils vous proposent, quoi. Mais déjà, ce sera pas mal.
Parfait, merci beaucoup Emeline.
Avec plaisir.